Septième instruction.
Bien, mes chers sœurs, nous étions convenus initialement d'un triduum, et si je me permets de vous le rappeler, c'est parce que ce que je vous ai dit depuis, je ne dis pas trois jours, mais enfin six conférences, depuis mon arrivée, constitue un peu un tout qui se suffit en quelque sorte à lui-même. De sorte que, sans l'avoir fait exprès, j'ai terminé comme un chapitre, vous voyez, de tout ce que je pourrais avoir à vous dire. Par conséquent, considérons les deux instructions qui nous restent comme du rabiot, hein, si vous voulez, comme quelquefois vous en offrez généreusement à table, et un rabiot qui ne peut que ouvrir quelques portes sans prétendre constituer quelque chose d'aussi terminé, un peu par hasard, parce que ça n'arrive pas souvent d'arriver à clore les choses de manière complète, aussi achevées, se suffisant à soi-même, que les six premières instructions. Alors dans l'ensemble de tout ce que j'aurais à évoquer comme autre chapitre, il y a deux points que j'espère avoir le temps tout de même d'effleurer au moins, c'est le mystère du péché, dont je ne vous ai pas parlé pratiquement, et pour terminer tout de même sur une note un peu plus glorieuse et plus proche de l'Assomption, le mystère de la stigmatisation, et très particulièrement de la stigmatisation de la Sainte Vierge, dont bien entendu je ne sais rien, puisqu'il n'y a aucune tradition à ce sujet, mais sur laquelle je vous offrirai quelques inductions, comme on dit en jargon philosophique et théologique. Alors le mystère du péché est un de ceux dont j'ai le plus de mal à parler, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est un sujet douloureux, et que par conséquent il est douloureux d'en parler. Et il est douloureux d'en parler, d'abord parce que je suis moi-même un pécheur, que je ne peux pas parler de ça sans me sentir très concerné. Et puis, sincèrement, tout en faisant partie des pécheurs, ça ne m'empêche pas, bien au contraire, de sentir le péché des autres. Et c'est assez dominicain si, comme je le rappelais, à vos sœurs de Prouille, Saint Dominique avait encouragé Bertrand de Comminges, qui pleurait beaucoup ses péchés, à cesser. Il dit, ben, ça suffit comme ça, t'as bien pleuré tes péchés, maintenant tu vas t'occuper de pleurer ceux des autres. Alors, je ne suis pas sûr du tout d'avoir suffisamment pleuré mes péchés, et d'autant plus que ça continue, quoi. Donc il y a toujours lieu de pleurer. Mais je ne peux pas m'empêcher d'écouter de ce point de vue-là l'appel de Saint Dominique, de pleurer un peu aussi ceux des autres. Et alors là, c'est une entreprise extrêmement douloureuse. Tellement douloureuse que nous sommes tentés, c'est une tentation qui règne beaucoup dans l'Église aujourd'hui, mais c'est une tentation que je comprends. Elle ne date pas d'aujourd'hui, on y cède bien davantage aujourd'hui, mais elle a toujours été, de se voiler un peu les yeux devant ce mystère du péché. Et justement, parce que on sent bien qu'on ne peut pas s'en tomber dans un pharisaïsme qui serait alors très grave, on ne peut pas excuser ce propre péché sans excuser aussi ceux des autres, alors on excuse le péché des autres de façon à être un petit peu tout de même excusé dans la foulée, vous voyez, comme ça. Alors, je ne suis pas très rassuré quant aux intentions qui dictent certaines indulgences, voyez-vous, de ce point de vue-là. Il y a une certaine manière d'être indulgent vis-à-vis des autres qui a pour finalité secrète, mais tenace, de bénéficier de la même indulgence et de se rassurer soi-même au sujet de la gravité du péché. Au contraire, si honnêtement on accepte de regarder la profondeur du mystère du péché des autres, eh bien, évidemment, on sera forcément labouré, au moins par la crainte, qui doit être dépassée par la confiance et par l'amour parfait, mais justement nous n'y sommes peut-être pas, au moins par la crainte de pécher nous aussi, et de pécher gravement, nous aussi. Alors, je m'empresse de faire une première remarque que j'ai faite à vos sœurs de Brouille, justement, à propos de cette parole de Saint-Dominique, que deviendront les pécheurs. Saint-Dominique connaissait bien le mystère du péché et des pécheurs, d'autant mieux qu'il n'était pas pécheur lui-même, il était beaucoup plus préservé que François d'Assise, n'est-ce pas? Eh bien, il faut faire attention. Il y a, quand Saint-Dominique demande que deviendront les pécheurs, il s'agissait d'abord et avant tout des cathares. Par conséquent, de très véritables pécheurs, non pas des pauvres pécheurs, que nous sommes tous plus ou moins par faiblesse, mais des pécheurs, comme on dit qu'il y a des travailleurs de force, eh bien il y a des pécheurs de force. Il y a des pécheurs qui sont pécheurs en vertu d'une mauvaise force. Et c'était bien le cas des cathares qui justement prétendaient en remontrer aux chrétiens en fait de perfection, et qui y arrivait d'ailleurs sans trop de difficultés, étant donné justement que beaucoup de chrétiens étaient de pauvres pécheurs assez lamentables. Alors les cathares, eux n'étaient pas lamentables, et ils n'en étaient que plus pécheurs. Voilà le genre de péché qui constituait l'agonie de Saint-Dominique, et qui constitua l'agonie du Christ aussi. Des péchés qui ne sont pas des péchés pour rire, pas plus que le Christ n'a aimé Angèle de Foligno pour rire. Alors ces péchés-là existent. Voilà ce qu'il faut bien se mettre dans le crâne et dans le cœur. Et ils sont désignés dans la Bible par un terme universel qui les couvre tous, l'endurcissement du cœur. Or, ce qui m'ennuie encore plus à parler de ça, et c'est une réflexion que je me faisais à l'instant même, me préparant à vous en parler, c'est que plus le péché est profond et véritable, plus il a une tendance à devenir imperceptible, inconscient, dans le pécheur lui-même. Vous voyez, c'est ça qui est très embêtant. C'est que les péchés de faiblesse, hein, il est difficile de ne pas les voir, de ne pas les remarquer. On s'aperçoit qu'on est gourmand, on s'aperçoit qu'on est coléreux, on s'aperçoit qu'on est impur, on s'aperçoit qu'on est vaniteux même, si vous voulez. Mais l'art de l'orgueil, c'est qu'on ne s'en aperçoit plus. Et ça, c'est... Et comme saint Augustin ajoute que justement, l'orgueil, à la différence des autres vices, ne nous fait pas commettre des actes mauvais, mais qu'il pervertit les œuvres bonnes elles-mêmes, si en plus de ça il les pervertit de manière invisible, vous voyez l'affaire. Et alors là nous sommes en face de quelque chose de très déroutant, et dont je ne pourrais pas affronter tous les aspects avec vous, c'est que la sainteté la plus profonde, comme le péché le plus profond, ont une tendance à être de plus en plus inconscients. Ça se situe justement dans les régions qui un saint ne sait pas qu'il est un saint. Il le sait de temps en temps, il le sent passer de temps en temps, comme un soupçon. Mais il est toujours prêt à pleurer sa pauvre vie, comme le curé d'Ars disait. Et plus il se sanctifie, moins il sait qu'il est un saint. Eh bien, un pécheur, un vrai pécheur, ne sait pas qu'il est un pécheur. Et plus il s'enfonce dans le péché, moins il sait qu'il est un pécheur, un vrai pécheur. Alors vous me direz, il doit y avoir tout de même des signes auxquels on peut, dans la psychologie même du juste, du saint ou du pécheur, s'apercevoir. Et c'est vrai, ils ont des réactions psychologiques conscientes, en sens que le juste a horreur du péché. Mais il ne se sent pas pour autant indemne. Mais si vous lui proposez de pécher vraiment, il réagira avec horreur. Et le pécheur a horreur du bien. Du bien, oui. Il tend infailliblement à pécher contre le Saint-Esprit, comme l'a dit le Christ, c'est-à-dire à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et c'est en cela qu'il devient inconscient. C'est qu'il est sincère. Alors, là, je ne peux pas vous cacher que quand il s'agit des péchés même véniels, car j'espère qu'il y a des endurcissements du cœur qui sont véniels, j'espère. Je n'en sais rien, mais j'espère. J'espère parce que quand je crois les détecter, eh bien, franchement, ça me rend un peu malade. Précisément à cause du caractère inconscient, caché, insaisissable de cet endurcissement, qui fait qu'il n'y a aucun espoir humain d'ouvrir les yeux à ceux qui s'enfoncent ainsi dans un aveuglement de ce genre, et qui ainsi crucifient Jésus-Christ sans s'en apercevoir. Et alors là, je dois dire que cette espèce de malaise que j'éprouve, qui est quelquefois très profond, je l'éprouve indistinctement à l'égard des gens qui pensent comme je pense, qui pensent bien, qui pensent droit, ou des gens qui pensent de travers. N'est-ce pas ? Il y a des gens qui pensent de travers et qui me gênent beaucoup. Mais je voudrais retrouver un exemple, parce que si je pourrais vous en donner un, mais j'en ai plus saisissant que ça. Il y a des gens qui pensent de travers, et je les admire presque, je les envie presque de penser de travers, parce que je sens qu'ils sont bons. Oui, voilà. Vous savez, c'est difficile à dire, ces affaires-là. Hein. Ils sont bons. Un exemple très précis. Un de nos pères, dominicain, je vous dirai pas d'où, c'est pas de Toulouse en tout cas, et c'est pas de Nancy. Je ne le connais pas, je le connais personnellement très peu, mais enfin, je m'occupe de quelqu'un, j'ai une ouaille, qui le connaît, et qui s'étonnait qu'il ne réagisse pas davantage, avec plus de force, avec plus de fermeté, à l'égard de certains dérèglements, de certaines erreurs, passaient sous son nez, et dont il avait en principe la charge, parce qu'il était tout de même responsable d'un groupe, et dans ce groupe, il y avait des choses qui ne marchaient pas, et cette personne lui a dit, mais enfin, vous dites rien, alors, vous dites rien, hein, laissez passer. Alors il a fait une réponse extraordinaire, moi que je trouve un peu déraillante, mais qui est extraordinaire, mais je m'aplatis. Il a dit, j'aime mieux faire du purgatoire pour être trop bon que pas assez. J'admire, parce que de sa part, ça sonnait vrai. Là, je comprends. Et je pense qu'il peut y avoir des gens qui ne croient pas à l'enfer, par exemple, parce qu'ils sont bons. Et finalement, à la limite, j'admets ça. J'admets ça parce que, au fond, pour comprendre l'existence de l'enfer, il faut comprendre la possibilité du péché. Et si on est trop bon pour comprendre la possibilité de certains péchés, ben on ne comprend plus l'enfer. Et c'est, au fond, une inintelligence que j'envie. Une espèce de stupeur. Et de dire, oh, c'est pas possible. D'où, si on n'est pas suffisamment purifié pour être éclairé par Dieu sur la gravité de toutes ces choses, ben, une tendance un peu peut-être légère à dire, ben, j'y crois pas. Et cette manière de ne pas croire à l'enfer, eh bien, je la respecte. Vous voyez? Parce que je sens, je prends mes risques, hein, mais je sens que leur source est bonne. Même s'il y a une erreur, ben, c'est errare humanum est. Vous voyez? C'est vraiment par bonté. Mais il y en a d'autres, des erreurs, et les mêmes erreurs quelquefois, dans lesquelles je sens de l'insolence, de l'arrogance, et finalement de la dureté. Alors ça me rend malade. Et il y a aussi des vérités, de très grandes vérités. Celles qu'on assénait précisément à Thérèse de l'Enfant Jésus, peut-être de son temps, mais qui sont assénées avec une espèce de dureté. qui elle aussi me rend malade. Et c'est ce que je ne vois pas comment faire pour éclairer ceux qui ainsi refusent d'être éclairés. Au fond, il n'y a pas d'autre péché. Mais le drame de ce péché, c'est que par définition, il est inconscient. Étant donné que c'est une inconscience volontaire, mais réussie. Et tellement bien réussie qu'on est parfaitement satisfait. Et alors, je vous répète qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, c'est une façon de parler, c'est tout est relatif, mais enfin, il y a plusieurs personnes avec qui je pense pareil, avec qui je sens pareil au point de vue de la doctrine, et qui me rendent malade parce que les paroles sont bonnes, mais la musique, la musique, c'est pas la musique. C'est pas la musique de la Sainte Vierge. C'est peut-être les paroles de l'Église. Incontestablement. C'est pas la musique du Saint-Esprit. C'est pas la musique de ce Dieu qui ne se défend pas. Oui, ça non. Et alors, soit que ce ne soit pas la musique, je suis premier à me rendre compte que ma musique, je peux dire ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais je peux pas dire ma musique n'est pas ma musique. Hélas, elle est beaucoup trop ma musique. Mais au moins, je m'en doute. Enfin, j'essaie de m'en douter. J'essaie d'accepter de me remettre en question, d'être remis en question. Qu'est-ce que vous voulez, le mystère des angéliques de Port-Royal, pour préciser les choses, ça existe. Et de tous les péchés qui me rendent malade, je crois qu'il n'y en a aucun qui puisse me rendre plus malade que celui-là. C'était des hérétiques aussi. Et c'était au fond des cathares. Ça existe. Alors, je suis obligé de vous mettre en garde contre ce péché. Et de vous mettre en garde toutes. Et de vous dire, moins vous avez conscience que vous risquez ce péché, plus je vous encourage à le craindre. Il y a le péché des pécheurs, je vous le répète, et puis il y a le péché des innocents. Je veux dire, le péché que l'on commet à partir d'un état où on n'est pas pécheur. Le péché de nos premiers parents, qui n'étaient pas des pécheurs, qui étaient des saints, comme nous voudrions bien l'être, et même plus à certains égards que les saints de l'Église chrétienne ne le sont, parce qu'ils étaient maîtres d'eux, alors que les saints de l'Église chrétienne sont invités à pleurer tous les jours leur incapacité d'être maîtres d'eux. Donc à ce point de vue-là, nos premiers parents auraient pu en remontrer à saint François d'Assise et même à saint Dominique. Qui avait peut-être ce qu'on appelle des premiers mouvements, qui n'étaient peut-être pas toujours très au point, et qui pouvaient se lamenter là-dessus. Nos premiers parents, non. C'était très bien, c'était parfait. C'était la perfection. La perfection de rêve, les cathares, était largement dispensée. Les cathares étaient laissés sur place, comme on dit aujourd'hui en termes sportifs, par la perfection de nos premiers parents. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos premiers parents? Eh bien, un péché spirituel. Le seul péché spirituel qui nous guette, et sur lequel, encore une fois, on s'aveugle, qui est de ne pas se renoncer. Ou de ne pas pratiquer le renoncement. Et alors, je suis obligé de vous donner quelques petites indications. Encore une fois, ce sont des ouvertures. Je ne peux pas espérer vous donner quelque chose d'aussi... Ce sont des propos variés. Enfin, je trouve pas mes mots. Enfin, vous voyez, voilà, ce geste-là, quoi. Pas des divagations, mais enfin, voilà. Bon. Sur ces sujets-là, je ne les traite pas, je n'ai pas le temps. Mais le renoncement... Apprenez une chose. Ce à quoi Dieu nous demande de renoncer, ça n'est pas ce qu'il nous refuse. Et c'est encore beaucoup moins le mal. Le mal, il ne nous demande pas d'y renoncer, il nous demande de le haïr. Ce qu'il nous refuse, il ne nous demande pas d'y renoncer, il nous demande de mettre une croix dessus, ce qui n'est pas la même chose. Ce à quoi il nous demande de renoncer, c'est à cela même qu'il veut nous donner. Oui, je vois que on ne comprend pas très bien, je vais m'expliquer. Ce que Dieu veut nous donner, Il nous demande d'y renoncer. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Sauf quand il s'agit des biens temporels qu'on n'a même pas le temps de désirer. Mais la préparation normale d'un don précieux, et en particulier de ce don précieux entre tous, qu'est la gloire, la disposition normale et indispensable pour recevoir la perle précieuse, c'est-à-dire la gloire, c'est de la désirer et c'est d'y renoncer. Et si on ne comprend pas ça, et justement il est très facile de ne pas le comprendre et de s'aveugler là-dessus, alors on s'endurcit. Et on s'endurcit comme nos premiers parents. Alors il faut que j'essaie de vous l'expliquer, bien sûr. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de renoncer à ce qu'il veut nous donner? Est-ce que c'est pour le plaisir de nous embêter? Non, pas du tout. C'est au contraire pour pouvoir nous le donner, car il s'agit de la gloire. Il s'agit d'un bien infini. Eh bien, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que ce n'est pas nous qui possédons la gloire, c'est la gloire qui nous possédera. Et pour que la gloire nous possède, il faut que nous soyons dans un état de telle souplesse que nous n'ayons aucun mouvement propre, pas même celui de nous emparer de la gloire. Autrement dit, de porter la main sur le fruit défendu. Voilà. La règle du jeu est très simple. Comme il s'agit de quelque chose que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu et qu'il n'est pas monté dans son cœur, il faut le désirer. Mais ça, et ne pas s'endurcir contre ce désir. Il faut se laisser labourer par ce désir. Et ça, ça fait mal. Mais en plus, il faut y renoncer. Il faut y renoncer pour que Dieu puisse nous le donner. Alors, le péché, c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas le temps de tout développer, mais je vais tout de suite au plus pratique, au plus concret, le péché que nous risquons de commettre, mais c'est précisément de ne pas, et c'est ça qui me rend malade, je vous répète, chez beaucoup dont je me sens très proche par ailleurs, c'est qu'ils ne lâchent pas prise, sous prétexte que ce qu'ils désirent est bon. Tiens, évidemment, mais précisément parce qu'ils le désirent de cette manière-là, ils ne l'auront pas. Pas avant qu'il ne cesse de le désirer de cette manière-là. Que ce soit la beauté de l'Église, que ce soit la perfection individuelle, que ce soit la perfection collective, que ce soit le règne de Dieu, que ce soit la sainteté elle-même, que ce soit le Dieu qui se donne dans l'oraison, alors celui-là spécialement, si vous essayez de le posséder, de l'attraper par vous-même, je vous souhaite bien du plaisir. Et en réalité, en vérité, je vous souhaite le désespoir, parce que si, en essayant de posséder Dieu de cette façon, vous n'aboutissez pas au désespoir, alors vous aboutirez à l'illusion. Et ça, c'est pire que tout. Et c'est de ça que Saint Dominique pleurait, en se demandant que deviendront ces illusionnés qui prétendent posséder Dieu, alors qu'ils n'ont pas su y renoncer. Alors vous allez me dire, il faut renoncer à Dieu. Oui. Et en le désirant de toutes vos forces. Alors, il se trouve que dans ma collection privée d'âmes, j'en ai une qui est un... qui c'est pas un industriel, c'est un salarié. Mais un salarié de l'industrie. Bon, donc, plongé en plein dans la vie moderne, la vie active, toutes ces choses qu'on invoque pour dire qu'on ne peut pas mener une vie spirituelle parce que le matériel nous tient trop. Bon, il est père de famille, il est là-dedans, il s'y amuse pas du tout. Alors ça, je peux vous dire qu'il s'y amuse pas du tout. Il poursuit malheureusement une perfection impossible à atteindre et il en désespère, heureusement pour lui, très bien. Et puis, en plus de ça, en prime, et alors c'est ça qui est tout de même extraordinaire et qui est une leçon pour des contemplatifs et des contemplatives, eh bien, il désire Dieu. Il a faim et soif de Dieu. Alors, nous causons, bien entendu. Il me parle de son âme, Et il est un de ceux qui ont le mieux réussi à comprendre ce que je vous dis là. Il a, précisément parce que sa volonté de posséder Dieu est un peu vraiment enfantine, grossière, caricaturale et violente, mais d'une violence nerveuse plus que spirituelle, d'une violence qui ne se cache pas d'être violente, d'une violence un peu bête. Il a cette chance. Ça n'est pas cette violence sournoise et spirituelle de ceux qui sont toute douceur en apparence, mais qui sont féroces à l'intérieur, dans leur ténacité, dans leur entêtement. Alors là, lui, non, ça, c'est pas ça. Il veut posséder Dieu. Et alors, il n'y arrive évidemment pas. Et alors, il a su écrire, par hasard, parce qu'il ne s'en doute pas, enfin, il ne s'en doutait pas, je lui ai peut-être fait trop bien savoir, dans un journal spirituel, dans un petit journal qui tient un journal de bord, qui me montre de temps en temps pour que je sache où il en est, il a su décrire tellement bien ce mystère du renoncement, la loi du renoncement à laquelle Dieu le condamne, que si vous n'avez pas très bien compris jusqu'à présent ce que je voulais dire, eh bien, j'espère que vous allez le comprendre grâce à lui. Parce que si vous ne le comprenez pas grâce à lui, eh bien, c'est à ce moment-là que je commencerai à souffrir de votre part, comme de celle de tous ceux et de celles qui ne veulent pas comprendre. Alors il dit, la porte qui me sépare de la vie éternelle est là. Bon, imaginez, porte, en béton, comme la porte d'un coffre-fort. Je le sais et je le sens depuis des années, mais ça fait bien 20 ans de ça. Et ça fait 20 ans que je fonce dessus pour l'ouvrir. Alors je fonce comme un taureau, la charge. C'est pas la charge de la brigade légère, c'est vraiment... Et alors, quand un taureau fonce contre une porte blindée, qu'est-ce qui se passe? Il se casse la figure. Pan! Et je sais très bien que je n'ouvrirai pas cette porte, mais c'est plus fort que moi. Je fonce. Et pan! Et j'ouvre rien du tout. Et ça fait des années que ça dure. Et puis, à la longue, je commence à me fatiguer. Me fatiguant, je ne fonce plus. Je ne fonce plus, mais je pousse encore. Je pousse. Pour essayer d'ouvrir cette porte. Apparemment, je me repose contre elle, un petit peu comme les Juifs du mur des Lamentations. C'est un peu pour moi l'image de la prière, ça. De la prière contemplative. Justement, cette espèce de désespoir. Mais si j'ose dire, ce désespoir confiant, ce désespoir en lamento, qui accepte de laisser sortir, c'est ça la musique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paroles ni de dogmes qui peuvent faire comprendre ça. Vous comprenez, on y est ou on n'y est pas. Alors, voilà. Mais je pousse encore quand même, un peu. J'arrive pas à renoncer. Vraiment. C'est lui qui le dit. Je pousse toujours. Et quelquefois même, je m'écroule au pied de cette porte. Tellement je n'en peux plus. Et je m'appuie dessus pour me reposer, mais tout en m'appuyant dessus pour me reposer, et tout en étant bien écroulé, ben, je pousse encore. C'est plus fort que moi. Jusqu'au jour, dit-il, où je comprendrai vraiment dans mes nerfs et où je mettrai en œuvre cette vérité que je sais dans mon intelligence mais que je n'admets pas dans mon cœur, au fond de moi-même, à savoir que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Et que Dieu essaie de l'ouvrir aussi, lui, cette porte. Seulement c'est moi qui l'en empêche, en poussant dessus. Et que plus j'essaie de l'ouvrir, plus je retarde l'heure de la bienheureuse délivrance dont parle Saint Jean de la Croix. Celle qui sera possible quand j'accepterai par désir de m'écarter de cette porte. À ce moment-là, Dieu qui pousse, mais qui pousse pas comme un taureau, lui, vous comprenez, non, comme l'Esprit Saint, avec toute la délicatesse de quelqu'un qui connaît le secret de la serrure, qui pousse comme un souffle, un murmure doux et léger, ce n'est que ça. Et c'est pour ça, c'est parce que Dieu pousse avec une délicatesse infinie, que la moindre poussée de notre part, la porte s'ouvre. C'est pas possible. Mais il suffit pas de dire, oh ben je vais y mettre de la douceur et du tact. Non, rien. Alors, le souffle de Dieu ouvre la porte au moment où j'aurais vraiment renoncé. Voilà. J'espère que le Saint-Esprit vous fera comprendre qu'il y a entre vous et Dieu une bataille que j'ai appelée justement le combat de Jacob, mais si la figure biblique est éloquente, celle inventée par cet homme me paraît très éloquente aussi. Et précisément parce que je ne l'ai pas inventé, je n'hésite pas à avouer toute ma préférence pour cette image admirable. Il y ajoute d'ailleurs une autre image, qui est aussi éloquente et qui achève la doctrine, si je peux dire. Il imagine de l'herbe en mal d'évolution, comme la plupart, une herbe théiardienne, n'est-ce pas, une herbe un peu théiardisante, et qui voudrait accélérer le processus évolutif de complexification, sanctification, qui aboutira à faire de cette herbe un végétal plus évolué, puis peut-être un animal élémentaire, puis un animal supérieur, etc., jusqu'à l'homme. Et qui voudrait abréger les aires géologiques nécessaires pour que, toujours en mal d'évolution, et dans l'hypothèse évolutionniste que je ne me charge pas d'examiner ce soir, vous pensez bien, c'est une image. Eh bien, dans cette perspective, il faudrait attendre tout de même quelques heures, quelques siècles, hein, quelques paires de siècles pour que ça vienne. Eh bien, si cette herbe désirant que le stade mouton, par exemple, lui soit offert rapidement et voulait brûler les étapes, il dit elle n'a qu'à se faire manger par un mouton et 2 heures après, elle sera parfaitement mouton. Elle aura évolué avec une rapidité foudroyante. Eh bien, c'est encore le mystère du renoncement. C'est encore le mystère de la gloire. L'herbe qui veut devenir mouton, l'homme qui veut devenir Dieu, l'homme qui veut devenir un saint, ne le deviendra pas. L'homme qui deviendra un saint, c'est celui qui le désire à en mourir et qui renonce, et qui s'offre à la sainteté, en reconnaissant que la sainteté, c'est pas lui. La sainteté, c'est Dieu. Et Dieu entend qu'il ne ressemble à rien, et qui dit à Dieu, bien, mangez-moi. Mangez-moi, et en 2 heures, ça peut être fait, oh oui, et en 2 secondes. Ça peut être très vite fait. Seulement, c'est plus vite dit des lèvres que du cœur. Et c'est pour ça que Dieu nous fait attendre. Parce qu'il nous dit, oui, tu me demandes de te manger, mais t'as pas encore complètement abdiqué dans ton inconscient tout désir de me manger, toi. Et tant que t'as le désir de me manger, toi, ou d'ouvrir la porte, toi, dans l'autre sens, mais je ne peux pas te manger. Je voudrais bien, mais tu me gênes. Tu m'embarrasses, tu fais des embarras. Tu compliques les affaires. Tu es un être compliqué, retors, replié sur toi-même. Tu ne me laisses pas faire tranquillement, tu es indigeste, tu es incomestible, tu es un caillou, et ça se mange pas les cailloux. Alors il faut que je t'enlève ton cœur de pierre, pour te donner un cœur de chair, un cœur comestible. Alors là je te mangerai en 1 seconde, ce sera vite fait. La gloire passera en toi. Mais pour ça, justement, il faut que tu acceptes cet apprentissage du renoncement. Et du renoncement aux choses qui te paraissent les plus désirables, les plus valables. Oh oui, je le répète, il faut les désirer. Tu ne les désireras jamais trop. Car ce renoncement est à base d'amour, ce renoncement est à base de désir. Celui qui cesse de désirer, cesse de renoncer. C'est pour ça que nous sommes incontestablement menacés par 2 périls, celui de vouloir posséder par nous-mêmes, prendre le fruit défendu, ou bien celui de lui tourner le dos. Alors que l'attitude correcte et effectivement contemplative, c'est de se mettre à genoux ou de s'asseoir, comme vous voudrez. Surgite postquam sederitis. Cumando catepatem doloris. Bon. Et puis de regarder le fruit, et puis de saliver. de laisser le désir sortir de ton être, jusqu'à ce que, justement, tout mouvement pour me manger cesse en toi, et laisse la place au pur et simple désir d'être mangé par l'Eucharistie, selon la parole de Saint-Augustin. Ce n'est pas toi qui me change en toi de quand tu manges de ce pain. C'est moi qui te change en moi. Tu disparais dans mon corps, dans mon cœur et dans ma vie. Mais pour que la disparition soit totale, il faudrait que tu te laisses faire totalement. Tu es comme un noyé qui s'agite. Alors, il faut lui donner un coup sur la nuque pour qu'il se tienne tranquille. Malheureusement, Dieu, si j'ose dire, n'est pas l'homme des coups sur la nuque. Ça, c'est ça qui est en état. Remarquez qu'il utilise quelquefois des coups sur la nuque, mais Dieu est l'homme, si j'ose dire l'homme, mais après tout, il s'est incarné, Jésus-Christ est l'homme des délicatesses. Et alors, si on ne se laisse pas faire, il attend. Il attend. Et il risque d'attendre toute notre vie. Et c'est pourquoi je suis profondément convaincu à la fois de la doctrine du curé d'Ars et de la doctrine de Thérèse de l'Enfant Jésus sur le purgatoire. Je suis profondément convaincu des deux. À savoir que pour le curé d'Ars, presque personne n'évite le purgatoire. Et pour Thérèse de l'Enfant Jésus, nous devons tous espérer éviter le purgatoire. Comment ça s'arrange? Ça s'arrange tout simplement en ce que il y a très peu de gens qui acceptent d'avoir confiance. Mais confiance en Dieu, pas en eux. Comme dit Thérèse, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous mener à l'amour. Vous savez, les paroles des saints sont redoutables parce que c'est toujours des rien que. On mène un enfant au curé d'Ars, on lui demande de le bénir, n'importe quel prêtre dirait, oui c'est très bien, mes chers parents, vous avez des enfants pour les mener au ciel. Mais le curé d'Ars dit, lui, vous n'avez des enfants que pour les mener au ciel. Toute la distance entre des braves gens, bons chrétiens et des saints, se tient là. Ceux qui acceptent de n'avoir des enfants que pour les mener au ciel. Donc, qui abdiquent tous les autres désirs, et quant à celui-là, ils y renoncent. Selon la loi du renoncement dont je viens de vous parler. Eh bien, Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit, c'est la confiance qui doit nous mener à Dieu. Ça va très bien. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle ajoute, et rien que la confiance, c'est-à-dire la confiance en Dieu seul. C'est-à-dire que la moindre confiance en nous grippe la machine et ça marche pas. Ou la moindre volonté d'avoir la moindre confiance en nous grippe la machine et ça marche pas. Et le moindre aveuglement là-dessus, car c'est parfaitement inconscient. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ce sujet du péché m'est tellement douloureux. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça? Je sais que c'est inconscient. C'est aussi inconscient que la foi, l'espérance et la charité. Et ce même monsieur dont je vous parlais, et qui s'agite beaucoup, mais qui a conscience de s'agiter, comme un pauvre pécheur qu'il est, eh bien, Dieu lui a fait comprendre un jour qu'il s'est chauffé un peu comme la grenouille qui s'enfle pour devenir aussi grosse que le bœuf, dans l'espoir de poser un acte de foi. Et il a vraiment vu que la foi était un don absolument inconscient. Et que ça lui était donné par derrière, bien plus loin, dans les profondeurs sous-marines où il n'avait pas accès. Que c'est vraiment le don de Dieu. Et que alors il pouvait s'échauffer tant qu'il voulait pour avoir de la foi, pour grandir sa foi d'une seule coudée, et ça ne servait à rien. Il n'avait qu'à la demander. Et accepter de croire qu'il la reçoit. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Cherchez pas à le vérifier. Eh bien, la foi est inconsciente, l'espérance est inconsciente, la charité est inconsciente, et le péché est inconscient. Et il faut se balader là-dedans. Ben justement, rien que la confiance ne peut nous en sortir. Voyez ? Quand, d'ailleurs, Paul le dit. Si je jette mon corps dans les flammes et que par la charité. Donc, vous voyez, si alors, quelle preuve pouvons-nous avoir que nous avons la charité s'il ne suffit pas de jeter son corps dans les flammes, de donner ses biens aux pauvres, on peut faire tout ce qu'on veut et ne pas avoir la charité. C'est invisible. On peut faire tout ce qu'on veut et le faire par orgueil. C'est invisible. Alors, il n'y a qu'une seule sécurité, c'est celle de Jeanne d'Arc. Mon Dieu, si je suis sur la bonne route, gardez-moi sur cette bonne route. Si je n'y suis pas, mettez-moi sur la bonne route. Et je demanderai bien un petit peu de savoir, mais puisqu'on ne peut pas savoir, eh bien, j'essaie de m'en remettre et d'accepter que la confiance, et rien que la confiance, me mène vers vous. Et ces paroles que je prononce en ce moment auprès de vous, sans vous connaître, justement, j'aime mieux ne pas vous connaître, comprenez-moi bien, j'aime mieux ne pas vous connaître pour les dire, n'est-ce pas ? J'aime mieux les dire sans vous connaître. Parce que ces paroles que je n'ai pas inventées, que j'ai reçues des saints et de l'Église et de l'Évangile, sont des signes de contradiction. Et je sais qu'elles opèrent comme un glaive à deux tranchants, la séparation. À propos de ces paroles-là, j'ai expérimenté toujours et partout que deux femmes sont dans un champ, l'une est prise, l'autre est laissée. Car ces paroles-là sont accueillies par les uns et pas accueillies par les autres. Et c'est comme ça, et c'est inconscient. Et on n'y peut rien que de prier et de supplier. Mon Dieu, que deviendront les pécheurs ? C'est-à-dire ceux qui ne se laissent pas labourer par ces paroles comme il faudrait être labouré. C'est pour ça que je ne peux pas vous les dire sans une certaine anxiété. Parce que je sais que ce ne sont pas, je ne peux pas espérer, je ne peux pas me consoler, me bercer de l'espérance devant aucune communauté. Je ne connais pas d'exemple d'une communauté qui ne soit pas divisée par ces paroles-là. Même si elles ne sont pas prononcées, en fait, ça explique tout. Toute la bataille et toutes les batailles. Parce que les motifs superficiels, enfin superficiels quelquefois très graves, les histoires écuméniques, mais s'il n'y avait que des gens humbles à s'en mêler, tout en étant profondément convaincus chacun de tenir le dépôt, mais si on le faisait humblement, ben, il se passerait des miracles. Il se passerait des miracles. Il se passerait des miracles, c'est-à-dire que le ton et la musique avec lequel le catholique romain, qui seul a la vérité, le dirait, serait tellement déchirante et déchirée à la manière de Saint-Dominique, justement, qu'il serait plus malheureux, plus honteux d'avoir la vérité que les autres ne seraient honteux de découvrir leurs erreurs. Alors là, dans cette musique-là, ça serait vite fait. Mais on en est loin. Et c'est ça qui est le signe de contradiction qui divise. C'est qu'on est très loin de cette attitude-là, que j'évoque un peu une fois à propos de la charité fraternelle, et on peut transiter là-dessus puisqu'on bavarde, hein, en disant la charité fraternelle existe dans un ménage, par exemple, lorsque si le monsieur, le mari, aime le style Empire et que la femme aime le style Louis XIII, eh bien le mari bataille pour se meubler en Louis XIII, et la femme pour se meubler en Empire. Et quand on en est là, du point de vue de la charité, ça va. Tant qu'on n'en est pas là, c'est que la musique n'y est pas. Et alors craignons là, ces profondeurs de notre être, dans lesquelles se jouent les péchés secrets de notre entêtement. J'ai toujours, à propos du curé d'Ars, j'ai été longtemps, je ne sais pas si c'est lui, enfin, j'associais ça au curé d'Ars, cette parole cette histoire. Oui, je crois que c'est parce que, justement, il disait que presque personne n'évitera le purgatoire, justement parce que personne ne saura vivre sur la confiance pure. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, et j'ai oublié. Et alors, il évoquait ce religieux mort en odeur de sainteté, vraiment en odeur de sainteté, et qu'un pauvre frère convert a vu au purgatoire pour de longues années, peut-être des siècles, parce qu'il avait gardé quelque attache à son jugement propre. Moi, ça m'a paru effrayant au début, parce que j'étais jeune, et que je ne mesurais pas ce que ça veut dire, une attache à son jugement propre. Je le mesure pas beaucoup mieux maintenant, mais si peu que je le mesure, ben, ça suffit pour que je comprenne que ça puisse entraîner ce que Carlo Caretto appelle des aires géologiques de purgatoire. C'est une chose assez terrifiante que le mystère du péché, c'est-à-dire que le poids de la liberté que Dieu nous donne. Il faut bien vous dire que nous avons affaire à un enfant et que tout se joue à des millimètres. Si nous sommes dans l'anxiété, ben je dirais, ça va bien, le remède est simple, il n'y a plus qu'à se réfugier et à être pauvre et à être humble. Mais si nous sommes sûrs de nous, à ce moment-là, tremblons. Justement, tremblons d'être sûrs de nous et tremblons pour ne pas être sûrs de nous. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du péché, au sujet du renoncement. Et demain, ben, j'essaierai de vous dire quelques mots plus joyeux, peut-être, mais les larmes doivent préparer tout de même la joie sur la stigmatisation de Marie.